Henri de Régnier, La double maîtresse, troisième partie, chapitre 5. Olympia s'appelait à sa naissance Lucia. Son père était l'un de ces bateliers du Tibre qu'on voit amarrer leur barque au port de la Ripetta et qui semblent porter, sur leur peau hâlée, un reflet jaune du vieux fleuve. Il eût été difficile de dire exactement s'il se nommait Giuseppe ou Gabriel. Car la mère de Lucia s'abandonnait tour à tour à beaucoup d'hommes, et il n'en était guère de ceux qui vont par haut d'Ostie à Rome, qui n'eussent serré entre leurs bras sa poitrine mère et ne l'eussent culbuté sur les sacs de blé ou les tas de légumes. Les jours de salaire, elle fréquentait les cabarets du port. Sa voix aigre se mêlait aux jurons et aux rires, aux heurts des cruches et au bruit des verres. Sa bouche était familière aux haleines vineuses ou aliacées qui mélangent au baiser le rot et le hoquet. D'ordinaire, elle se tenait postée sur le quai, devant une corbeille d'oranges et de citrons qu'elle vendait aux travailleurs. Ils s'arrêtaient devant elle, le fardeau aux épaules, choisissaient un fruit du panier et se relevaient en y mordant à belles dents. Tout le monde la connaissait. Elle habitait une chambre dans une pauvre maison du Vélabre. Son taudis sentait la chandelle et les écorces, car elle ne manquait pas, pour mieux vendre ses fruits, de brûler une petite cire devant l'image de la Madone. Elle était pieuse. On disait que les bas sacristains de San Giorgio ne craignaient point de la disputer aux bateliers et qu'elle passait tour à tour des brûleurs d'encens aux vendeurs de marais. C'est de l'un d'eux qu'était née Lucia. 6 ans après, la Romaine mourut pour avoir été rouée de coups dans une querelle de taverne où on la traîna par les cheveux sur le pavé gluant d'une bouvineuse qu'elle ensanglanta d'une large blessure à la tête qui ne guérit point et dont elle finit par trépasser seule sur son grabat, tandis que la petite Lucia, tout en mordant un citron vert, chassait les mouches bourdonnantes qu'attirait en grand nombre le régal de la plaie saigneuse. Cette mort fit de la petite Lucia une vagabonde. Elle couchait dans une sorte de soupente qu'on lui avait laissée par charité. Les voisines lui donnaient quelques hardes et de temps à autre de maigres pitances. Hors cela, elle se pourvoyait où elle pouvait. Souvent, elle restait de longs jours sans reparaître au gîte. Elle vivait de la vie des petits mendiants de Rome qui sont comme la vermine errante de ces vieux murs. Elle demandait l'aumône aux passants, courait derrière les carrosses, harcelait les étrangers, importunait les fidèles à la sortie des églises et, comme par miracle, échappait aux roues des voitures, aux claques des laquais, à la canne des promeneurs. Elle traînait partout ses guenilles, se mirait aux fontaines, jouait sur les marches des chapelles et montrait aux gens, dans sa face barbouillée et sa chevelure en broussaille, l'éclat frais de sa bouche et l'éclair malicieux de ses yeux noirs. Elle s'attachait surtout aux étrangers. Elle rôdait souvent place d'Espagne, où ils descendent à l'hôtel du Mont d'Or, qui est réputé pour son logement et sa chair. Les sentimentales et blondes comtesses allemandes, qui visitent Rome avec de jeunes conseillers auliques aux joues roses, ne lui refusaient guère quelque aumône quand il sortait de table la bouche encore pleine. Sa chétive personne apitoyait. Elle faisait voir à travers ses loques ses coudes pointus. Les bons gentilshommes français qui arpentent, le nez en l'air, le pavé romain, mettaient vite la main au gousset pour se délivrer de ses instants. Mais elle guettait de préférence les milords anglais. Elle les reconnaissait à leur face congestionnée ou à leur visage anguleux, à leur prestance obèse ou à leur tournure efflanquée. Elle avait remarqué avec quel regard particulier les plus vieux examinaient sa vive maigreur de fillette de 13 ans. Elle les suivait dans leurs promenades et, quand l'un d'eux se trouvait à l'écart des passants, derrière un mur ou à l'abri d'un arbre, elle troussait brusquement sa robe autour de son petit corps et montrait hardiment au milord sa nudité grêle et fine, tout ambrée et déjà ombrée. Et ce tour lui valait chaque fois quelques monnaies. Elle partageait loyalement ses gains avec un compagnon qui ne la quittait guère. Orphelin et mendiant comme elle, il s'appelait Angiolino. Il avait 1 an de plus qu'elle et ils faisaient ménage ensemble. Inséparables et querelleurs, ils n'allaient pas l'un sans l'autre. Du reste, Angiolino la battait, lui volait son argent. Elle trépignait, pleurait et finissait par consentir à tout ce que voulait ce vaurien. Il était pâle et joli. Cependant, Lucia grandissait. Une dame romaine la remarqua à la sortie d'une église. Lucia était accroupie sur une marche et sanglotait. Angiolino, dans une querelle, l'avait cruellement maltraitée. Aussi consentit-elle à suivre sa protectrice qui lui promit maintes douceurs. Madame Pietra Grita habitait une maison fort propre et silencieuse. Le plus grand ordre y régnait. Madame Pietra Grita passait pour pieuse et charitable. Elle était bien vue du clergé de sa paroisse. Elle traita Lucia le mieux du monde, la décrassa, la vêtit, lui fit enseigner à lire et à chanter, et certains soins du corps qu'elle ignorait. Puis, un beau jour, une fois à point, elle la vendit au cardinal Lamparelli. Le cardinal aimait la jeunesse et Madame Pietra Grita l'en pourvoyait discrètement. Le palais Lamparelli était situé parmi de beaux jardins dans le quartier du Mont Viminale. Ce fut dans un pavillon au bout de ces jardins que Lucia fut introduite. Madame Pietra Grita la conduisit elle-même jusqu'à la petite porte basse qui s'ouvrait dans le mur d'enclos et la remit aux mains d'un valet à mine de sous-diacre qui la guida jusqu'au pavillon où il la laissa seule. C'était un lieu retiré dont le cardinal avait maintes fois éprouvé la sécurité. Lucia trouva les fenêtres fortement closes et les girandoles allumées. Elle comprit ce qu'on attendait d'elle et que Madame Pietra Grita lui avait laissé entendre un mot couvert. En attendant, elle goûta la collation préparée sur un guéridon. Le cardinal la trouva la bouche pleine. Il était si pressé de voir cette merveille, dont la Pietra Grita lui avait dit le plus grand bien, qu'à l'issue de son audience, il accourait sans avoir pris le temps de quitter son habit de cérémonie et d'en revêtir un plus conforme à la circonstance. Aussi, Lucia, en voyant sortir du grand costume rouge tombé à terre un abbé en culotte, puis un gentilhomme en chemise et enfin un homme tout nu, fut-elle saisie d'une telle hilarité qu'elle succomba à l'entreprise, la gorge soulevée d'un rire et la bouche encore sucrée de sa confiture interrompue. Lamparelli fut enchanté de la bonne humeur de l'aventure et tout fier de son exploit, car Madame Pietra Grita l'avait assuré de l'intacte vertu de Lucia. Aussi crut-il en cette affaire avoir accompli une prouesse tout à son honneur. Au vrai, le bon cardinal n'avait guère fait tout au plus qu'achever ce qu'Angiolino avait fort bien commencé, sous les portiques, au coin des bornes, le long des murs, au crépuscule ou la nuit dans quelqu'une des cachettes familières où ils se terraient comme de jeunes bêtes souples et hardies. Mais Lamparelli ne se douta point de la supercherie et n'en fut pas moins content que s'il avait eu lieu de l'être plus justement. Lucia revint souvent au petit pavillon du jardin. Lamparelli finit par l'y installer. Son caprice pour elle devint un goût. Du pavillon, Lucia passa au palais, d'abord sous les combles, puis publiquement, elle y eut un appartement. Le cardinal raffolait de sa nouvelle passion. Il fit pour elle mille folies et ressentit à son égard une faiblesse singulière jusqu'à laisser introduire au palais Angiolino. Angiolino était devenu un fort joli garçon. Il se présenta au cardinal d'un air modeste et doux et se contenta du plus humble service. Il avait de bonnes façons qu'il devait à un gentilhomme français, Monsieur de la Terroise, qui, frappé de sa bonne mine, se l'attacha jusqu'à en faire une sorte de compagnon. Angiolino conservait de cette aventure à l'italienne plusieurs fort belles bagues dont son maître lui avait fait présent et dont il portait les chatons à l'intérieur du doigt afin que l'on ne vît pas trop au dehors les pierres de prix qui s'y trouvaient enchâssées. Une fois dans la place, le jeune homme s'y comporta avec tant de souplesse et d'habileté qu'il y acquit bientôt une certaine influence sur l'esprit du cardinal. Lucia et Angiolino retrouvèrent aisément leur privauté d'autrefois. Mais, au lieu de rôder en haillons par les rues de Rome, ils prenaient leur plaisir, bien nourris et à l'aise, derrière le dos du cardinal qui n'y voyait goutte. Cette belle vie dura plusieurs années, jusqu'à ce que, la santé du pape étant fort précaire, Lamparelli, qui avait des vues sur la tiare et qui craignait que ses mœurs, quoique communes à plus d'un des conclavistes, contribuassent à le desservir auprès de leur hypocrisie, employa le peu qui lui restait de bon sens à faire maison nette, pensant par là servir la cause de son élection. Lucia poussa les hauts cris, menaça de faire scandale et de crier sur les toits les façons dont le cardinal entendait l'amour. Elle en savait long à ce sujet, car elle avait assisté au dernier feu du vieillard, et elle avait été témoin des bizarreries par lesquelles il cherchait, sinon à en ranimer l'éclat, du moins à en attiser les cendres. Aussi aurait-elle pu amuser le public de diverses particularités et anecdotes qui eussent plus renseigné sur l'imagination du cardinal qu'édifié sur sa vertu et qui n'eussent pas manqué de divertir les oreilles du conclave. Au moment où il s'ouvrit, en 1769, Lucia, sous le nom d'Olympia, était installée depuis quelques mois dans une jolie maison proche de la Villa Ludovici et acquise pour elle des deniers de Lamparelli, qui joignit à ce don un fort cadeau d'argent et de meubles. Le cardinal la laissa à ses affaires et alla aux siennes. Il avait hâte d'échanger le chapeau contre la tiare. Il n'en fut rien. Lamparelli s'agita prodigieusement, intrigua, cabala, manigança les votes, pelota les partis, eut le sien. Sa tête s'échauffa à ses brigues et à ses visions. Son corps souffrit de l'incommodité des cellules, du mauvais air et de tous les inconvénients de cet électorale prison. L'élection tardait. Si traversée de menées diverses qu'elle menaçait de durer éternellement, si l'Esprit Saint n'y mettait bon ordre. Deux cardinaux moururent à la peine. Les autres continuaient leur mystérieuse besogne. Enfermés dans les étroits logements du Vatican, bâtis de planches dans la largeur et la hauteur des galeries et des salles, ils s'obstinaient. Les factions s'enchevêtraient jusqu'au jour où, excédée, l'élection se fit par surprise. Lamparelli sortit de là enragé et anéanti et rentra chez lui la tête basse, à demi fou et incapable désormais d'aucune affaire. Celle d'Olympia, par contre, prospérait. Elle était suffisamment pourvue d'argent pour attendre l'occasion de quelques beaux coups de filet. Outre les avantages en demeure et en espèces qu'elle avait tirés de Lamparelli, il lui restait la valeur permanente et réelle de son corps que sa jeunesse mûrie avait rendu d'une riche et savoureuse beauté. Elle était souple, ferme, assez grasse, le sein d'une belle forme, le ventre moelleux, la cuisse forte et la jambe fine. Cette beauté constituait une ressource vivante dont un usage, bien entendu, ne manquerait pas de lui valoir fortune. De plus, elle avait auprès d'elle, pour en régler l'emploi et le bien ménager, l'aide précieuse, vigilant et avisé de l'incomparable Angiolino. Il avait quitté le palais Lamparelli à la suite d'Olympia. Les premiers temps de leur nouvelle liberté furent une sorte de lune de miel. Ils la passèrent en grande partie au lit. Ils s'aimaient d'un amour vil et singulier, mélangé de camaraderie et de débauche, d'une sorte de basse et ardente tendresse où il y avait du jeu de polisson et de la fureur d'amant. Les caresses et les coups alternaient, étreintes et querelles, d'où ils sortaient avec dans le regard je ne sais quoi de hargneux et de tendre. Une fois ce premier regain passé, Angiolino retourna à ses occupations personnelles. Dans sa vie vagabonde, il avait acquis les talents les plus divers et les plus utiles. Il avait déjà commencé au palais Lamparelli à en exercer quelques-uns, mais il se trouvait maintenant en posture de montrer toute sa capacité et toute l'étendue de ses mérites. Le coquin avait de plus presque fort bonne mine. Il était bien vêtu et de figure agréable. On se fût jusqu'à un certain point trompé sur sa qualité, si je ne sais quoi de douteux n'eût averti et mis en garde. Une certaine souplesse d'échine le faisait saluer trop bas. Sa politesse était plus obséquieuse qu'il eût fallu pour qu'on n'y vît que l'effet de sa complaisance naturelle. Il tournait vite de la platitude à l'arrogance, de l'insolence à la bassesse. Il savait à merveille jouer le bouffon et n'ignorait pas l'usage qu'on peut tirer d'être plaisant. C'est par là qu'il avait capté le cardinal Lamparelli, qui montrait un goût singulier pour la farce et la grimace. Il admirait chez Angiolino son habileté à esquiver un mauvais pas par une pasquinade. Il riait et oubliait que le drôle venait de regarder aux serrures ou d'écouter aux portes. La vérité est qu'Angiolino était au fond de l'âme brocanteur, intrigant, espion et parfait ruffien. Plus d'un grand seigneur ou d'un prélat recourait à lui en des affaires délicates ou particulières. Aussi fréquentait-il les antichambres et les sacristies. Avec cela, resté populaire, il connaissait les cabaretiers, les loueurs de voitures, les porteurs de chaises et autres menus gens. Il se tenait là, fort au courant des filles en train de devenir jolies et des garçons prêts à un coup de main. De cette façon, il pouvait toujours mettre à la disposition de ses illustres clients de quoi satisfaire leurs vices ou assouvir leurs rancunes, une maîtresse complaisante ou un spadassin adroit. À l'affût des voyageurs de passage à Rome, il se présentait à eux sous divers prétextes. À peine arrivé, il voyait venir le subtil Angiolino qui leur offrait ses services. Il en avait de toutes sortes à proposer et débutait par celui de leur faire voir la ville, en son détail et en toutes ses curiosités, tant publiques que secrètes. Il s'occupait de tout, louait des appartements, vendait des camées et des mosaïques, procurait des reliques de saints, menait à l'église, au théâtre ou au jeu. Aux amateurs de musique, il s'entendait à merveille à leur organiser des quatuors ou des concerts de chambre, car il était au mieux avec toute la clique des coulisses et des pupitres, les racleurs de violon, les acteurs, les castrats. Il avait de quoi contenter le plus exigeant, qu'il voulut dépenser ses écus en achats, en musique, en bonne chère, au jeu ou plus simplement aux femmes, ce qui est encore, après tout, le moyen le plus commun et le plus commode. Angiolino tenait boutique de beauté et Olympia figurait en belle place à l'étalage. Elle se prêtait de bonne grâce au choix prudent et lucratif d'Angiolino, et ce fut par lui que la belle Romaine vit passer dans ses draps les étrangers les plus divers. Elle coucha avec des Anglais dont la peau laiteuse et blanche contrastait singulièrement avec le teint sanguin et rougeâtre. Il y en avait de vigoureux qui répandaient une odeur de viande fraîche et de saine boucherie. D'autres, longs et maigres, allongeaient à côté d'elle des carcasses osseuses et un petit souffle court. Quelques-uns, obèses, pesèrent de leur poids charnu sur sa poitrine ferme. Elle aimait assez les Allemands, ils sont bonasses ou rudes, tandis que les Espagnols portent dans l'amour même une morgue quinteuse. Quant aux Français, presque aucun ne quittait Rome sans avoir passé par les bras d'Olympia, car ils ne voyagent guère sans demander à chaque pays l'hospitalité amoureuse de ses courtisanes. D'ordinaire, tout se passait bien et en bon ordre chez Olympia. On y trouvait un plaisir discret et sûr, car Angiolino détestait le bruit et le tumulte et tout ce qui attire les sbires et les argousins. Il savait pourtant risquer quelque chose quand l'affaire en valait la peine, même au prix de suites désagréables, comme il arriva au sujet de ce jeune seigneur russe qui ne sortit de chez Olympia que les poches vides. Car Angiolino n'ignorait aucun des artifices du jeu et aucune des pratiques par lesquelles on allège les pontes imprudents. Il les mit en œuvre envers le naïf boyard qui, après une nuit passée aux tables vertes, parmi les comparses dont Angiolino les avait adroitement garnis, se trouva au matin, sans un sequin, des bourses qu'il avait apportées avec lui, fort gonflées d'or et en si piteux état qu'on le ramassa au bas des escaliers de la Trinité, les boutons en brillant de son habit décousu, les poches retournées, les bagues coulées des doigts et la tête si perdue des boissons dont on avait étourdi sa déveine, qu'elles le tinrent 3 jours à l'hôtel, suant sang et eau, à hurler sur sa chaise percée des coliques qui lui tordaient les entrailles. Olympia admirait d'autant mieux les bons tours d'Angiolino et son entente à toutes choses qu'elle eût été incapable d'en inventer le quart et d'en trouver l'équivalent. Elle manquait d'intrigue et d'entre-gens, et même des manèges nécessaires à la galanterie. L'attrait et la vue de sa beauté étaient ses seules armes. Il ne lui restait rien de la petite fille malicieuse qui levait sa jupe au nez des vieux milords. Dès que sa vie vagabonde et précaire eut pris fin par les soins de Madame Pietragritta, elle se montra molle, inerte et paresseuse. Elle sortait à peine du palais Lamparelli. À peine si, en temps de carnaval, elle parcourait le corso masqué. Mais une fois hors de son apathie, elle devenait furieuse, brusquement, de plaisir et de bruit, puis retombait le lendemain dans son indolence, interrompue seulement de colère soudaine, qui la dressait tout d'un coup, injurieuse et brutale, l'œil égaré et les ongles en avant. Une fois installée chez elle, elle devint de plus en plus casanière. Elle traînait par les escaliers et les corridors ses robes lâches et de toutes couleurs. L'hiver, elle chauffait au brasier ses mains engourdies et restait de longues heures ainsi, le feu aux joues, à se cuire aux braises chaudes. L'été, elle dormait de longues siestes, se réveillait pour croquer des pâtisseries ou des pralines ou pour aller à son miroir. Elle y regardait son visage et son corps et revenait se reposer. Elle passait aussi beaucoup de temps à sa vigne, étendue sur la balustrade de la terrasse, mangeant une grappe ou quelque autre fruit. Puis, elle rôdait çà et là, pieds nus en des mules de satin jaune qu'elle faisait claquer à son talon et auxquelles jappait un petit chien. Elle recevait des tireuses de cartes et des marchandes de phares. Son indifférence à coucher avec le premier venu était complète. Elle s'en remettait à Angiolino. Un singulier mélange de luxe et de négligence bigarrait sa maison. Cela allait du sordide au raffiné. On buvait dans des verreries dépareillées dont les brèches craquaient sous la dent. Des assiettes de terre commune se mêlaient à des pièces de porcelaine fine. Il y avait au plafond des lustres de cristal irisé suspendus à une corde de chanvre. On y glissait sur le pavé à des écorces de fruits et à des épluchures de noisettes. Dans un coin, un miroir fendu reflétait un fauteuil à trois pieds. Olympia portait des robes déchirées où les taches ne manquaient pas. Elle avait souvent les mains poissées de confiture. Sa chevelure croulante lui donnait toujours un peu l'air de sortir du lit. Malgré tout, une certaine grâce de volupté était répandue sur toute sa personne. Son charme venait sans doute de ce qu'elle semblait toujours prête au plaisir. On lui savait gré de celui qu'elle donnait, et Angiolino n'en était nullement jaloux, pourvu que de temps à autre il y prît aussi le sien. Il se mélangeait de rires, de bouffonneries et de querelles, et finissait d'ordinaire par les larmes d'Olympia, qui se consolait, les joues mouillées, à demi nues, assise au rebord du lit, les jambes pendantes et mordant à belles dents à une orange rouge ou à un citron jaune.